Bonjour messieurs, bonjour madame, bienvenue à cette session d'information à la présentation Nanit Talani à la une de l'actualité de ce jeudi 24 octobre 2024. Renforcement des frontières, accord entre le Tchad et la Centrafrique pour une force mixte de sécurisation. Violation du cessez-le-feu, le M23 prend la ville de Kalembe en RDC. L'opposition mozambicaine appelle à des manifestations pour dénoncer les fraudes électorales. Hezbollah, confirmation de la mort de Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah. Notre section magazine reviendra sur la pénurie de pétrole au Burundi entre conséquences économiques alarmantes et les autorités qui tentent de rassurer.
Les autorités nous avaient promis que le carburant serait disponible en 2 jours. Où est ce carburant qui est devenu rare? J'ai de l'argent. 2 semaines viennent de s'écouler sans que je me déplace avec ma voiture. C'est vraiment dommage.
Page économique, Orano suspend sa production d'uranium au Niger en raison de fermetures frontalières. Et puis en sport, nous parlerons des nouvelles directives de la CAF issues de sa 46e Assemblée générale, mais d'abord le journal. Le président mozambicain Filipe Nyusi a prévenu hier que les appels à manifester violemment pourraient être considérés comme des actes délictueux. Cette mise en garde intervient dans un contexte de tension à la veille de la publication des résultats officiels des élections générales du 9 octobre. Les détails avec Mouhamadou Oumfa.
Le fait de discréditer les institutions, d'inciter la population à la révolte, de désinformer et de créer le chaos à des fins politiques peuvent être considérés comme des actes délictueux, a averti le président sortant, dont le parti Frelimo est aux affaires de ce pays depuis l'indépendance en 1975. Que le pays manifeste à nouveau contre un processus qui n'est pas encore à son terme et déconcertant, a insisté le président Nyusi, qui termine son 2e mandat. Aussi, nous appelons tous les Mozambicains à attendre le résultat des élections, a-t-il ajouté. Le principal opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire à la présidentielle et dont l'avocat assassiné la semaine dernière a été enterré mercredi, a appelé à 2 jours de manifestation aujourd'hui et demain pour dénoncer des fraudes électorales. Face au Frelimo, qui a présenté Daniel Chapo comme son candidat à la présidence, l'opposant Venancio Mondlane appelle à paralyser le pays pendant 2 jours pour protester contre l'annonce des résultats qui doivent être dévoilés aujourd'hui par la commission électorale.
Les rebelles du M23 se sont emparés hier d'une ville dans l'est de la République démocratique du Congo, violant, d'après la médiation angolaise, une nouvelle fois le cessez-le-feu en vigueur. Les précisions de Rosine Munezero.
Le M23 est à nouveau entré dans la ville de Kalembe mercredi après des combats violents avec les Wazalendo, une milice affiliée au gouvernement de Kinshasa. L'ennemi utilise toute son artillerie et a réussi à prendre une de nos positions, a assuré Marcelin Chekunku, porte-parole d'un groupe Wazalendo présent sur place. Après cette opération, l'Angola a dénoncé pour la première fois lundi une violation flagrante du cessez-le-feu et un acte hostile qui met en péril les efforts en cours pour trouver une solution durable au conflit. Début août, la médiation angolaise a obtenu la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC. Le cessez-le-feu a été globalement respecté, mais est souvent violé par les groupes armés. Des affrontements entre M23 et Wazalendo ont également été signalés dans les localités de Kaira et Iwula, situées dans le territoire de Masisi, toujours dans la province du Nord Kivu.
Le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé hier son intention de créer une commission dès l'année prochaine pour élaborer une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la RDC. Notre constitution n'est pas bonne, elle a été élaborée à l'étranger et par des étrangers, a déclaré M. Tshisekedi lors d'un meeting à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. Critiquant la constitution actuelle jugée inappropriée et élaborée à l'étranger, Félix Tshisekedi a souligné la nécessité de réformes basées sur les coutumes congolaises. Le Tchad et la Centrafrique ont signé un protocole d'accord pour la création d'une force mixte de sécurisation des frontières, a annoncé le ministère tchadien des Affaires étrangères. Bangui a déjà annoncé un accord similaire avec son voisin, la RDC. Le point avec Eddy Issangou.
Ce protocole a été paraffé par les ministres de la Défense de deux pays au terme de 4 jours des commissions mixtes à Bangui. Le Tchad et la Centrafrique, qui partagent plus de 1200 kilomètres de frontières, ont signé 3 projets d'accord portant sur la sécurité, le règlement des conflits et les rapatriements des réfugiés. La Centrafrique avait déjà signé la semaine dernière un accord similaire avec un autre de ses voisins, la République démocratique du Congo, pour renforcer la sécurité dans les zones frontalières, selon un communiqué publié à Bangui. Ces deux pays partagent une frontière sur plus de 1500 kilomètres les longs du fleuve Ubangui. Les autorités centrafricaines ont présenté en avril dernier un plan de gestion des espaces frontaliers. Au cours de cette présentation, la chef de la mission onusienne en Centrafrique, Valentine Rugwabiza, avait salué la volonté du gouvernement centrafricain de gérer ses frontières et contribuer à restaurer l'autorité de l'État à Bangui, la capitale, et dans l'arrière-pays.
Le ministère guinéen a requis hier 5 ans de prison et une amende de 5 milliards de francs guinéens contre Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé, pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption. Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre. Le représentant du ministère public a évoqué l'augmentation de la fortune personnelle de M. Diané durant son mandat. L'accusé a choisi de garder le silence, se disant victime de violation de ses droits. Le président nigérian Bola Tinubu a remanié son cabinet de 45 membres en nommant 7 nouveaux ministres, en limogeant 5 et en réaffectant 10 autres. Les principaux ministres des Finances, de la Défense, de la Planification nationale et de l'Énergie ont conservé leurs fonctions. Le remaniement a également consisté à changer le ministère du Développement du Delta du Nil en ministère du Développement régional, à dissoudre le ministère des Sports et à fusionner les ministères des Tourismes, des Arts et de la Culture.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hezbollah a confirmé hier la mort de Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du mouvement islamiste libanais. L'armée israélienne a déjà annoncé l'avoir éliminé dans une frappe près de Beyrouth. Les détails avec Michel Joseph.
Dans un communiqué, le Hezbollah a fait état hier de la mort du chef de son conseil exécutif, Hashim Safieddine, dans un raid sioniste, ajoutant qu'il a été tué avec d'autres membres du parti chiite, sans préciser la date ni le lieu de sa mort. Mardi soir, l'armée israélienne a affirmé l'avoir tué lors d'une frappe il y a environ 3 semaines dans la banlieue sud de Beyrouth avec Ali Hussein Azima, un autre responsable du Hezbollah. Selon une source proche de ce groupe, Safieddine était le candidat le plus susceptible de succéder à Hassan Nasrallah, tué dans une frappe israélienne le 27 septembre dans la banlieue sud de Beyrouth. Nasrallah était devenu chef du Hezbollah en 1992, à l'âge de 32 ans, après qu'un hélicoptère de combat israélien a tué Abbas al-Moussaoui, son prédécesseur, à la tête du mouvement chiite pro-iranien.
Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doivent se rencontrer ce jeudi au sommet des BRICS à Kazan pour discuter de la situation en Ukraine. C'est leur premier entretien sur le sol russe depuis avril 2022. Malgré les combats en cours et l'absence de négociations officielles, Guterres réaffirmera ses positions sur la nécessité d'une paix juste, conforme au droit international. Vladimir Poutine espère utiliser ce sommet pour démontrer l'échec des sanctions occidentales et promouvoir un monde multipolaire. Des leaders présents ont appelé à une trêve, tandis que la position des pays comme la Chine et l'Inde reste ambiguë sur l'annexion des territoires ukrainiens. Les tensions demeurent, notamment avec l'Union européenne qui exhorte Poutine à mettre fin à la guerre. Les pays riverains de la mer du Nord se donnent rendez-vous ce jeudi au Danemark pour concrétiser leurs engagements en matière d'éolien en mer, un secteur à l'épreuve de la forte concurrence en provenance de Chine. Lors du sommet, 8 pays, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Norvège, l'Irlande, ainsi que la Commission européenne doivent s'entendre sur les modalités d'installation de quelque 20 000 éoliennes offshore en mer du Nord d'ici 2050 pour la transition énergétique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques et financières avec Abdourahmane Dia.
La filiale au Niger du spécialiste français de l'uranium Orano est contrainte de suspendre sa production à partir du 31 octobre, faute de pouvoir continuer à travailler et à exporter son concentré d'uranium, annonce faite par une porte-parole du groupe à Paris. Les frontières sont toujours fermées avec le Bénin, il est donc impossible d'exporter, a expliqué la porte-parole, soulignant que les propositions alternatives pour exporter par la voie aérienne via la Namibie étaient également restées sans suite. La Côte d'Ivoire est le principal fournisseur africain de caoutchouc naturel, selon l'agence Ecofin. Le groupe pétro-gazier italien Eni a lancé le 18 juillet dernier la campagne 2024 de collecte de graines d'EVA dans le pays, avec pour objectif de se procurer 50 000 tonnes de graines. La compagnie va transformer localement ce stock en huile végétale qui sera par la suite acheminée vers des bioraffineries pour la production de biocarburants et de biomasse pour la production d'énergie.
Merci Abdou pour ces informations économiques. Maintenant, nous accueillons Yacouba Ouédraogo pour notre page sportive. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Ce matin, nous faisons le bilan de la 46e Assemblée Générale de la CAF, tenue à Addis Abeba en Éthiopie.
C'est une Assemblée Générale sous la forme de bilan pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, élu en mars 2021 et dont le poste sera remis en jeu en mars 2025. Dès l'ouverture de cette Assemblée Générale, le Sud-Africain a souligné les acquis obtenus par le football africain.
D'énormes progrès ont été réalisés et les chiffres et les résultats le reflètent. L'un de nos objectifs était de faire en sorte que le football africain soit passionnant. Il est attrayant pour les spectateurs, les fans de football et les téléspectateurs du monde entier. It's attractive to spectators and football fans. Lors de la dernière édition de la CAN, 1,4 milliard de personnes dans 175 pays ont regardé le foot africain parce qu'il est passionnant. In 175 countries
watching African football because it's exciting. Les nations africaines continueront à lutter pour être prises au sérieux sur la scène mondiale. Foi de Patrice Motsepe qui a aussi fait l'éloge de l'approche tolérance zéro à l'égard de la corruption au sein de la CAF et noté le nouvel esprit qui, selon lui, existe désormais au sein de l'organisation. D'après Motsepe, la CAF a dépensé plus de 50 millions de dollars l'année dernière juste pour la compétition et a dû payer 50 millions de dollars à Lagardère Sports pour un vieux conflit dont il a hérité.
Nous avons donné à chacun des 78 clubs qui participent aux compétitions de la CAF une somme de 50 000 euros. 50 000, c'est peu, mais c'est un changement significatif parce que ce n'était pas le cas auparavant. Et l'intention, bien sûr, est de l'augmenter. Et nous avons doublé l'argent que les associations membres recevaient de la CAF. Elles recevaient auparavant 200 000. Aujourd'hui, elles en reçoivent 400 000. Cela fait partie de mon travail, jeter les bases pour les futurs dirigeants et que nos membres tirent réellement ces avantages, car certains d'entre eux prennent du temps.
Autre décision importante adoptée par le comité exécutif de la CAF et entérinée par l'AG, la suppression de la limite d'âge de 70 ans au poste de la CAF dans le COMEX, la présidence de l'organisation et le conseil de la FIFA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour avec vous pour notre section magazine. Au Tchad, le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, casse la coalition Tchad Unie, un groupement de 236 partis politiques qui ont soutenu la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à la présidentielle du 6 mai dernier. Le secrétaire général du MPS demande à ses partis alliés de démontrer leur propre force aux élections législatives communales et provinciales du 29 décembre au lieu de compter sur la coalition. Cette rupture alimente le débat dans le milieu politique. André Côte-Badingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Chaque parti politique a d'abord son identité et ses militants. Chaque parti politique a sa cartographie électorale. On ne crée pas un parti pour être un allié.
Mahamat Zen Bada, secrétaire général du MPS, face aux plus de 200 responsables des partis politiques alliés qui ont plébiscité Mahamat Idriss Déby Itno à la magistrature suprême.
Chacun peut se présenter là où il peut et là où il veut et au scrutin qui lui semble facile. Mais ce serait au cours de la récolte que nous allons parler.
Diverses politiques ou stratégies de sur pour mieux manipuler les petits partis politiques. En tout cas, certains alliés qualifient ces propos d'ingratitude.
Nous en tirons aujourd'hui les leçons. Ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est l'ingratitude, la mauvaise foi. Si les gens pensent que c'était une manière de nous avoir utilisé pour nous jeter aujourd'hui, on laisse à la conscience de chacun.
François Ndjekombe est président de l'Union sacrée pour la République, l'un des alliés. Tout en prenant acte de cette déclaration, il informe que cette rupture est inattendue et indigeste.
Pourquoi, à la présidentielle, on avait besoin des autres pour accompagner le président. Aujourd'hui, ils pensent que maintenant ils peuvent écraser tout le monde et ils n'ont plus besoin de quelqu'un. C'est ça qui est malhonnête en fait. Parce que de toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, ce sont les 230 partis qui ont contribué à l'élection du président Mahamat. C'est des propos qui choquent les gens.
La plupart de ces partis n'ont pas une bonne structure de fonctionnement et donc sans militants, estime Maître Théophile Bongoro, homme politique et conseiller national.
Et surtout celui qui voudrait l'être. Parce que dès au départ, j'avais dit que sur les 221 partis à l'époque, aujourd'hui, c'est 229, que la plupart n'avaient d'existence que la présence de leur dossier dans les archives du ministère de l'Administration du Territoire. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. Il les a chassés. Moi, je suis d'accord avec lui qu'on ne crée pas une formation politique pour être allié. Si cela peut servir un peu de leçon à but pédagogique, et tant mieux qu'ils retiennent ça.
Pour certains acteurs politiques, une alliance ne se forme pas avant les élections.
Il faut aller et c'est au sortir donc des urnes qu'on tisse les alliances pour former des groupes parlementaires pour avoir des visions et ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde, chacun se réclame de l'opposition. Chacun se réclame de la majorité. C'est une fausseté politique.
Aladom Djarma Baltazar, président du parti ASRE et ancien géniteur de cette coalition qui est en dislocation. Pour lui, ceux qui crient au scandale viennent d'apprendre leur première leçon politique.
Cette coalition s'appelait Alliance pour le Oui. Mais dès lors que c'est devenu Coalition pour le Oui, nous autres, on a pris notre route parce qu'on savait que dedans, il se tramait donc une nouvelle leçon politique. Et donc, c'était juste une coalition pour aller aux élections. Ce n'est pas une coalition pour gouverner, pour diriger ou ensuite pour travailler. Parce qu'on ne peut pas venir dans une alliance avec les mains vides. Nous savons qu'en réalité, c'est des vendeurs d'illusions, ce n'est pas des politiciens. Parmi eux, il y en a même qui n'ont pas eu de carte d'électeur parce qu'ils n'ont pas pu voter.
Le secrétaire général du MPS a prononcé le divorce politique entre la coalition pour un Tchad uni au lendemain du refus du parti Les Transformateurs de participer à ces élections. Car, selon son leader, Dr Succès Masra, participer à ces élections revient à cautionner un résultat qui est déjà connu d'avance, réitérant des accusations de fraude formulées pendant la présidentielle de mai dernier. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Depuis plus de 3 ans, les produits pétroliers deviennent rares avec toutes les conséquences sur le quotidien des Burundais. La pénurie des produits pétroliers paralyse l'économie du pays qui était déjà mal en point. Des files d'attente de camions et véhicules devant les stations sont devenues interminables, tout comme les lamentations des conducteurs. Les autorités tranquillisent. Voici le reportage de Christophe Nkurunziza notre correspondant à Bujumbura.
Quand l'on se dirige vers la province de Bujumbura rurale, au bord de la route traversant les quartiers de Moussaga vers le sud Bujumbura, de longs files de camions-citernes, bus de transport et voitures des particuliers sont observés devant les stations-service de la localité. Certains conducteurs viennent de passer toute la nuit en attendant d'être servis. Ce jeune homme, Martin Dimouvandi, indique qu'il n'en peut plus.
Les autorités nous avaient promis que le carburant serait disponible dans 2 jours. Où est ce carburant qui est devenu rare? J'ai de l'argent. 2 semaines viennent de s'écouler sans que je me déplace avec ma voiture. C'est vraiment dommage.
D'autres chauffeurs rencontrés à la station-service affirment que la dernière distribution de carburant date d'une semaine et c'était uniquement pour le mazout. Cet autre chauffeur dans le bus de transport est obligé de se déplacer jusqu'à la frontière avec la République démocratique du Congo pour avoir du carburant, mais il paie très cher le litre d'essence et ou de mazout.
Le gouvernement nous avait promis de l'essence, ça fait déjà 2 semaines, mais jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle. Des fois, on achète à 300 000 francs. Le prix que l'État avait dit qu'on allait acheter 1 litre d'essence était de 4 000 francs. Donc, c'est vraiment intenable. Je demande que le gouvernement honore ses engagements.
Il y a 2 mois, le président burundais Evariste Ndayishimiye avait annoncé que 3 bateaux ramenant le carburant étaient en chemin pour pallier à cette carence de carburant. Jusqu'à cette date, les transporteurs attendent impatiemment. Cette pénurie crée des difficultés pour les citoyens burundais et étrangers vivant dans le pays des mille et une collines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les progrès en matière de gouvernance en Afrique se sont arrêtés sous l'effet de la dégradation sécuritaire et du paysage démocratique dans de nombreux pays du continent, assure un rapport de la Fondation Mo Ibrahim publié hier. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint l'économiste camerounais Oumarou Balarabé.
C'est normal que quand il y a de l'insécurité, que l'indicateur global, l'indice global, il soit défavorable à la gouvernance. Et c'est ce qui s'est passé parce que ce que le rapport dit, c'est qu'il y a des pays où il y a eu de la paix, il y a eu de la stabilité, de la stabilité démocratique. Dans ces pays-là, il y a eu des progrès, aussi bien sur les infrastructures que sur la gouvernance politique. Ce niveau de gouvernance-là, il n'a pas progressé quand on prend l'Afrique collectivement. Il n'y a pas eu de progrès de gouvernance sur le pas de temps de 2014 à 2023.
En dépit d'un tableau général assez sombre, Mo Ibrahim trouve des motifs d'espoir dans la jeune génération africaine. Ils sont mieux informés, plus entreprenants et ils en ont assez, dit-il. A-t-il des raisons d'être optimiste, Dr Balarabé? On voit que les jeunes cherchent plutôt à partir dans les pays développés.
Absolument, parce que les moteurs du développement, les moteurs de tout ce qu'il y a comme innovation, c'est les jeunes. Et à partir du moment où il a utilisé 2 mots, le rapport a sorti 2 mots, c'est qu'ils sont plus entreprenants d'un côté et qu'ils sont plus informés de l'autre. Aujourd'hui, il faut savoir que l'information, en fait, renvoie toujours au support d'information aujourd'hui qui est pas seulement l'informatique, mais aussi l'intelligence artificielle. Les jeunes aujourd'hui, ils ont une meilleure maîtrise de l'intelligence artificielle et de l'autre côté, ils sont plus entreprenants. Je relève, comme vous le dites, Mamadou Oumfa, que les jeunes voyagent, mais c'est une infime part de la jeunesse africaine qui voyage. Mais en fait, il y a aussi des retours. En fait, les retours, même si ce n'est pas le même niveau d'éducation forcément qu'ils ont, ils reviennent avec de l'expérience, ils reviennent avec un enseignement en termes de diversité. Et ceux-là, ils sont porteurs d'entrepreneuriat. Et c'est ça l'espoir. C'est ça l'espoir parce que, en gros, ce qui va être le moteur de développement de demain, c'est la jeunesse à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Et c'est l'intelligence artificielle qui va catalyser toute cette transformation qui doit être économique, qui doit être individuelle, qui doit être collective. Et pour cela, on a tout ce qu'il faut. On a des jeunes et on a des jeunes entrepreneurs et informés. Moi, je pense, je partage absolument cet optimisme-là. Et je pense que l'Afrique est sur une bonne voie à condition qu'elle continue à investir sur cette éducation, sur cette jeunesse et sur son avenir.
Alors, il y a une partie de la jeunesse africaine et de nouveaux leaders africains qui pensent que la solution au problème de gouvernance se trouve dans ce qu'ils considèrent comme le souverainisme ou alors le panafricanisme. Est-ce une solution selon vous?
Il faut une certaine dose de souverainisme et de panafricanisme pour avancer, mais il ne faut pas pratiquer le souverainisme dans le cadre d'un espace politique ou bien dans le cadre d'une gouvernance politique globale d'un État. Du souverainisme, en fait, je ne vois pas ce souverainisme politique et revendicateur, parce qu'en fait, celui-là, il est issu d'une certaine radicalisation. Ce qu'il faut recommander, c'est un petit peu du souverainisme économique, c'est que chaque pays, chaque État africain a besoin d'une certaine dose de protection pour développer, dire, les composantes industrielles, agricoles pour lesquelles elle a besoin de s'affirmer. De l'autre côté, il faut parler de panafricanisme économique parce que l'Afrique va se concentrer sur ce marché africain, va se développer à partir de ce marché africain. C'est du panafricanisme, mais du panafricanisme économique, du panafricanisme utile.
C'était l'économiste camerounais Oumarou Balarabé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, s'est rendu en Ukraine alors que les Ukrainiens s'inquiètent de la lassitude croissante des alliés occidentaux face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nathalie Barge relate un reportage d'Anna Tchernikova, correspondante de la VOA à Kiev.
Deux semaines avant l'élection présidentielle américaine, Lloyd Austin s'est rendu à Kiev pour assurer l'Ukraine du soutien futur des États-Unis. Le chef du Pentagone a déclaré que Washington n'abandonnera pas les Ukrainiens.
Le leadership américain coûte cher et bien. Considérez le prix du retrait américain face à l'agression, le prix du principe est toujours éclipsé par le coût de la capitulation.
La Russie connaît des avancées sur le terrain et l'inquiétude grandit parmi les Ukrainiens face à la lassitude des alliés occidentaux vis-à-vis de cette guerre qui dure depuis bientôt 3 ans. Selon l'analyste politique Mykola Bieleskov, la Russie compte sur la guerre d'usure.
Il est très difficile de résister aux guerres d'usure et de s'investir davantage. C'est un véritable défi pour l'Ukraine. C'est sur cela que la Russie compte dans sa stratégie.
Les Ukrainiens subissant la guerre disent espérer que le soutien américain va se poursuivre quels que soient les résultats des élections américaines, comme Serafima, une résidente de Dnipro.
Je pense que l'Amérique continuera à nous soutenir. Ils comprennent tout. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet.
Yuri habite à Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine.
Je ne pense pas que cela va beaucoup faiblir, parce que les États-Unis ont toujours des obligations contractuelles. Il y aura de l'aide. Cela dépend des prochains événements. Tout peut changer à tout moment.
Même inquiétude pour Ruslana, résident à Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine.
J'ai peur que cela puisse diminuer, mais je pense que tout ira bien. Il faut que l'on comprenne que nous devons gagner et que nous avons besoin d'aide.
Alors que l'attention du monde entier est tournée vers les prochaines élections américaines et la guerre au Moyen-Orient, les Ukrainiens espèrent toujours le soutien des États-Unis afin que leur pays puisse continuer à défendre sa souveraineté.
C'est la fin de ce journal. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production pour sa réalisation. Et ne vous oublions pas, amis auditeurs, merci de votre attention. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. La mise en onde était assurée par Lionel Gaïma, assisté par Kelvin Fowler à la console. Je suis Nanit Talani. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.